ne vont pas par exemple se défeuiller très tôt en saison et vont subir de plein fouet des gels très forts un peu plus tard.
Donc les conditions hivernales influent deux grandes observations qu'on peut faire, c'est qu'on a des dégâts qui sont liés plutôt aux températures, donc au gel, et on a d'autres dégâts qui sont liés aux précipitations, donc la neige et le verglas qu'on peut avoir en hiver. C'est généralement deux typologies assez différentes. La première conséquence qu'on peut observer dès qu'il y a des températures négatives, c'est des desséchements ou des flétrissements des feuillages, donc surtout sur les arbres et les arbustes persistants. Dans le nord-est, sur Nancy, on a très très peu d'arbres persistants sous nos climats qui sont donc vraiment résistants au gel. Et on voit très rapidement des flétrissements sur les azalées, sur les cotinias, et choses comme ça. Et ça peut aller jusqu'à des desséchants plus importants. Quand le gel dure très longtemps, le desséchant peut être très fort dans le sol, l'eau n'est plus accessible du tout. Quand les températures remontent un petit peu en journée, mais que le sol reste froid, il n'y a pas d'eau disponible pour la plante. Par contre, il peut y avoir un peu d'évaporation pour les persistants, parce que les températures redeviennent un peu meilleures avec la présence du soleil, et on peut avoir des phénomènes vraiment de desséchement de feuillage plus importants. Ce desséchement n'a, pour moi, n'a pas beaucoup de conséquences tant que la durée du gel est assez courte. Quand le gel est plus fort, on peut constater des fois des flétrissements fatales pour des jeunes rameaux ou des pousses mal outées surtout des gros arbustes persistants, parce que on a très peu d'arbres persistants sur Nancy en feuillu. Les conifères sont moins touchés. La deuxième conséquence du gel, ce sont les gélivures qu'on peut associer aux échaudures aussi, mais Thierry en parlera beaucoup mieux que moi. Les gélivures, moi je les ai connues pour la première fois quand j'ai fait des études forestières, donc c'est vrai que c'est une des premières causes de perte de valeur de bois, donc en forêt. En ville, on n'est pas là pour faire du bois, donc là cette perte est moins gênante, mais par contre la gélivure peut donc ouvrir des fissures, créer des chancres pérennes sur l'arbre, voire être une porte d'entrée pour des pathogènes. Donc c'est vraiment pas anodin. La gélivure donc semble aussi être à l'origine ou être associée aux échaudures. Et donc ce phénomène d'échaudure est aussi quelque chose de très néfaste à l'arbre en ville. Donc on a souvent ce phénomène sur les jeunes plantations, beaucoup moins sur les vieux arbres. Ce phénomène donc de chancre corticale avec souvent à terme des altérations associées. Donc face aux échaudures ou aux gélivures, on essaye de mettre en place des moyens de défense lors de la plantation et lors de l'évolution des arbres. Donc, pour protéger les troncs des arbres contre les différences thermiques importantes, le choc aussi du soleil, donc la plus pour l'été sur les troncs, on peut mettre en place des systèmes de protection des troncs, donc soit de la toile de jute, des nattes de bambou, des nattes de jonc. Une autre pratique qu'on essaye de mettre en place systématiquement, au moins quand les sujets plantés sont un peu forts, c'est lors du marquage en pépinière, de repérer le nord pour essayer d'orienter au mieux l'arbre, de replacer l'arbre dans la même orientation qu'en pépinière, en espérant que l'arbre ait pu mettre en pépinière un système de défense un système surtout de défense au niveau de l'écorce assez important, qui l'aidera à faire face aux problèmes d'échaudure que j'ai dû vivre. Aussi dans le choix des arbres en pépinière, essayer de choisir des arbres qui ont déjà qui viennent de pépinières, qui ont les mêmes conditions climatiques que l'endroit où il va être planté. Donc c'est vrai que d'aller choisir des pépinières dans le sud de la France ou en Italie pour planter à Nancy, c'est pas forcément optimum. Il vaudrait mieux aller choisir des végétaux qui viennent de France, du nord-est de la France, où on a très peu de grosses pépinières, ou qui viennent d'Allemagne, même du nord, où les conditions climatiques. peuvent être similaires. Je dis repérer le nord, essayer de choisir aussi les végétaux pépinières qui sont bien distancés. Plus les végétaux sont distancés, généalement les écorces sont développées aussi parce qu'elles ont été soumises un peu plus fortement à des variations de température, à la lumière, et donc on a plus de résistance. Ce qu'on a pu remarquer aussi, pour faire face donc au phénomène échaudure gélidure, c'est que meilleur était la reprise, moins on avait de problèmes d'échaudure. Et pour améliorer la qualité de reprise, ben pour l'instant, nous à Nancy, ce qu'on a trouvé de mieux, c'est déjà de planter dans de bonnes conditions, assurer une terre de qualité, assurer un arrosage de qualité, avec des suivis tensiométriques quand on le peut pour cibler les apports en eau, mais aussi planter des végétaux de petite taille. Donc, c'est-à-dire, dans les parcs, quand on fait un aliment, on essaie de planter du 16-18 ou du 18-20 de circonférence, pas au-dessus. Plus les végétaux sont petits, généralement, plus la reprise est dynamique et rapide, et moins on a ces phénomènes d'échaudure gélidure. C'est une constatation, et peut-être pas vrai partout, mais c'est certain que c'est plus facile à planter, ça reprend mieux, et on a moins de soucis derrière. Donc je suis plutôt partant de la petite taille à la plantation. Donc le gel peut être précoce. Donc les gels précoces vont surtout toucher les arbres caducs et va faire une défeuillaison prématurée. Pour exemple, moi j'ai dans mon jardin un cédréa et un polovnia qui cette année subitement ont perdu leurs feuilles au 5 octobre. On a eu un petit coup de gelée au 5 octobre. C'est pas très très précoce, mais au 5 octobre, ils sont passés de vert à plus de feuilles, brutalement dans une seule nuit. Donc c'est quand c'est que le feuillage qui est touché, c'est pas forcément dramatique. Par contre, on peut voir, comme sur la photo de gauche, donc là c'est une pousse terminale sur Polovnia, qui au moment du gel, ben, la pousse n'était pas suffisamment outée et la pousse a avorté, ce qui provoque automatiquement une fourche l'année suivante. Donc certains arbres vont très bien supporter un gel terminal comme ça d'une pousse. Donc surtout les arbres qui ont des systèmes de croissance sympodio, il n'y a pas trop de soucis, ils sont faits pour résister. Par contre, un gel comme ça qui va détruire une pousse terminale, par exemple sur un érable, vous allez tout de suite avoir une fourchaison. Donc dans certains cas, la fourche peut être gênante dans la gestion de l'arbre. Donc le gel peut être quand même assez ravageur. Nous avons aussi donc, des gels tardifs sur Nancy. Pour 2011, la dernière gelée blanche dans les campagnes environnantes de Nancy était le 4 juin. Donc on a eu un printemps plutôt chaud, et puis on a eu un petit coup de froid fin mai et une petite gelée au 4 juin. Pour les jardiniers, suffisamment pour racler la pomme de terre. La plupart des arbres ont résisté, il n'y a pas eu de soucis pour les arbres. Mais voilà, sur Nancy, on peut dire qu'on peut avoir des gels jusqu'à fin juin et puis qui peuvent démarrer fin septembre. Donc la période vraiment sans gelée peut être très très courte. Donc les gels tardifs sont bien connus, surtout en production, en arboriculture fruitière, comme étant la première cause de chute de fruits ou de non mise à fruits. En ville, sur les arbres, le gel des fleurs, surtout sur les fruitiers d'ornement, c'est un souci surtout esthétique. On perd une floraison, on perd un décor printanier, c'est pas ce qu'il y a de plus dramatique. On perd aussi des fois un décor d'automne, surtout les fruitiers qui peuvent avoir un fruit décoratif. Donc je pense à toute la série des pommiers. Un gel tardif peut mettre à mal aussi un décor d'automne, donc c'est quand même dommage. La chute des feuilles, si le gel est tardif et provoque la chute des feuilles, peut provoquer aussi un nouveau débourrement du végétal, donc un affaiblissement direct de l'arbre. Il est obligé de puiser dans ses réserves pour refaire une deuxième fois un feuillage. Cette remise à feuilles coûte de l'énergie à la plante et donc affaiblit un peu la plante. S'il est cumulé à d'autres facteurs, peut amener à des manques de croissance, à des dépérissements sur le long terme. Là, sur les photos, par exemple, vous avez le cas extrême d'une gelée tardive, c'est les gelées tardives du mois de juin, quand même, de cette année, sur un Podovnia aussi, sur la photo de droite, on voit un petit champ en écusson, et un gros calcaire artificiel. Le calcaire artificiel, c'est le calme de cette année, et la petite pousse qui s'était faite au printemps a gelé, au point de geler le rameau porteur de la pousse. Donc il y a une partie du cambium qui a été endommagée juste par le gel tardif. Et donc le Podovnia, quand il a gelé, il était en bourgeon très, très avancé, la feuille n'était encore pas développée, et il a été obligé de débourrer une deuxième fois, donc une réitération, une grosse déformation de l'arbre, parce que là, il est vraiment parti de partout. Il y a un cas particulier, ou un cas assez connu, sur le frêne, où on a des effets de fond de ballon. Donc, par exemple, on a un brouillard qui va protéger un peu contre le gel, et le gel ne va apparaître qu'à une certaine distance du sol, à quelques mètres du sol. On a des gels qui peuvent se faire en gel tardif, et tous les arbres vont geler à la même hauteur, pratiquement à la même hauteur. Donc, en foresterie, un gel tardif comme ça va former une fourche, et donc va dévaloriser la grue, où il va falloir faire une taille de formation. En arbre en ville, la plupart du temps, les arbres qu'on plante ont déjà un tronc qui est édifié suffisamment haut, donc un gel qui forme une fourche ne va pas forcément induire une taille de formation obligatoire derrière, si ce n'est pour réduire une entrée-corps, si une entrée-corps se développe sur cette fourche. Donc le gel, quelles conséquences pour la gestion ? Sur Nancy, tout d'abord dans le choix des essences, on ne peut malheureusement pas se permettre énormément de feuillus qui ne sont pas caduques. Ces arbres-là, la plupart sont vraiment gélifs. On a quelques arbres qui vont résister, mais c'est assez limité. Il y a une nouvelle gamme, surtout sur des chênes, en persistant ou semi-persistant, qui est en train de se développer pas mal dans les pépinières françaises. On n'a encore pas eu trop l'occasion d'en essayer ou de voir les dégâts sur les quelques-uns qu'on a plantés. On essaye tout doucement, mais on verra bien ce que ça peut donner. Donc très peu de feuillus persistants à cause du gel. Au niveau des méthodes de plantation, le gel influe quand même assez fortement. Ça limite le temps de disponible pour la plantation. Donc là, cette année, entre la pluie du mois de décembre, janvier surtout, maintenant le gel qui arrive, on se retrouve avec des difficultés pour planter dans de bonnes conditions. Donc c'est à prendre en compte les périodes de gel dans le planning de plantation et de gestion de l'arbre. La taille de formation le gel va souvent faire avec des tailles de formation, surtout sur les choses qui sont plantées en toute petite taille ou pour limiter les entrées-corps qui sont produites. Là, sur la photo de droite, vous avez une photo sur un sorbus qui a gelé il y a deux printemps. On voit une belle fourche qui s'est formée avec trois départs très, très francs. Donc une fourche comme celle-ci peut être travaillée pour reprendre, si on veut, une dominance d'une seule branche. Là, ça n'a pas été le cas, parce que c'est un arbre qui est dans un parc, qui peut s'évaser sans souci. Mais donc le gel peut induire des interventions de taille assez fortes. Ensuite, la deuxième grande famille de problèmes qui est liés à l'hiver, ce sont les chutes de neige et la présence de verglas. Donc là, on a des symptômes qui peuvent être assez légers, donc une simple brûlure du limbe. Donc c'est surtout un problème, on va dire, esthétique. Si la brûlure est généralisée à toutes les feuilles de l'arbre, là c'est un peu plus négatif pour l'arbre, parce qu'il va falloir qu'il remette en place un feuillage complet. Là, sur les images qu'on a, c'est pas dramatique. Là, par exemple, sur la gauche, c'est un chêne vert qui vient de Nancy. Donc, voilà, lui, il n'est pas vraiment dans sa région, mais il tient, il subit certains hivers. Donc la neige et le verglas directement pour la brûlure du limbe ne sont pas pour Nancy, en tout cas j'ai jamais vu vraiment de problème vital sur l'arbre, mais plutôt des gros dégâts esthétiques. Le plus gros souci qu'on peut avoir avec la neige, c'est des ruptures d'arbres, donc, ou des ruptures totales ou des ruptures partielles d'arbres. Donc là, on a par exemple le cas d'un hêtre pleureur sur la photo de droite. Donc, c'était un très gros hêtre pleureur qui avait fait des marcottes. Malheureusement, une intervention a été faite, les marcottes avaient été coupées, donc la jonction avec le sol avait été retirée sur cet arbre-là. Il y avait un petit dégât racinaire, donc une petite pourriture racinaire liée au poids de la neige, une neige assez lourde, qui est tombée, qui a fondu, qui est retombée plusieurs fois de suite, a fait que l'arbre a basculé. Donc le sol gorgé en eau, le sol n'était pas encore gelé, le poids de la neige, on a eu une rupture. On a là en photo aussi un cèdre sur la gauche. C'est un cèdre qui a cassé pour la première fois en 99 avec la tempête. Et depuis, c'est un arbre qui subit quasiment tous les ans de la rupture suite à des surcharges de neige. Donc le cumul de neige d'année en année peut ouvrir des houppiers, peut limiter la résistance de l'arbre. Et donc on s'aperçoit souvent aussi qu'un arbre qui a subi un élagage sévère ou un arbre qui a subi une casse lors d'un événement climatique antérieur est beaucoup plus sensible au poids de neige. Donc les houppiers ne sont pas bien fermés, la neige est plus à l'intérieur, et il y a plus de gros dégâts. La neige va toucher plus facilement les arbres, il y a plus de dégâts sur les arbres qui ont des formes très tourmentées. Donc tout ce qui est arbre pleureur, arbre tortillard. La photo du centre, c'est un séquoia pleureur. Ce genre d'arbre est beaucoup plus touché par le poids de la neige et le poids du verglas. Un autre type d'arbre sur Nancy qui nous pose souci quand il y a une forte masse de neige ou de verglas qui arrive, ce sont les formes fastigiées. Donc on a deux types de dégâts sur ces arbres-là. Ou des ouvertures de houppiers, donc des branches qui prennent le poids et qui s'écartent énormément, ou alors des ouvertures d'entrée-corps. Donc souvent les formes fastigées produisent plus d'entrée-corps que les formes classiques. Donc quand on prend par exemple l'exemple du poirier d'ornement, le Pyrus carina chanticleer, lui souffre assez facilement de la neige en s'ouvrant. Par contre, l'érable Saccharinum viri, forme beaucoup d'entrée-corps. Et c'est pareil, sur Nancy, on a quasiment tous les hivers, quand il y a de la neige, on a des ruptures de branches d'entrée-corps sur des érables Saccharinum. Donc ça vient aussi dans le choix des essences, il faut y faire attention. Donc là, justement, les conséquences sur la gestion. Donc dans le choix des essences, il va falloir s'attacher à prendre des essences qui vont avoir une forme générale qui résiste au poids de neige, donc comme éviter les arbres qui vont faire beaucoup d'entrée-corse, donc comme par exemple l'érable Saccharinum, comme le Tilia tomentosa brabant qui a tendance à vraiment former beaucoup de ces entrée-corses là et à s'ouvrir facilement avec la neige. On va aussi limiter des arbres à port fastigié ou à port tourmenté dans des zones où on sait que la neige tombe peut-être plus fortement ou qu'en plus un cumul qui peut se faire avec du vent. En termes de gestion, il faut faire aussi attention à la plantation, de ne pas enterrer de neige ou de glace au moment de la plantation. Donc là, on a une illustration sur une photo où au moment de la plantation, il y a une petite couche de neige. On a essayé au maximum d'enlever la neige avant de planter. Une neige qui est enterrée, généralement, reste très longtemps dans le sol, a du mal à fondre. Elle maintient du froid beaucoup plus longtemps dans le sol. C'est le principe des glacières de nos ancêtres, où ils enterraient de la glace pour la maintenir relativement longtemps en saison. Les racines des arbres ne sont pas faites pour... pour supporter de la glace, surtout au-delà de la période hivernale. Donc ne pas enterrer de glace au moment de la plantation. Ensuite, au niveau des tailles, on va avoir deux interventions. On va avoir une taille de formation qui va pouvoir préparer les arbres à résister au poids de neige, donc en limitant les entrécorses, en faisant tout pour, par exemple, sur les arbres fastidiés, ne pas dépouiller une branche charpentière pour qu'elle puisse bien forcir, qu'elle prenne un diamètre un peu plus conséquent et qu'elle craigne au moins les surcharges de neige. Sur la taille de formation. Après, en taille d'entretien, on va surtout avoir des actions correctrices par rapport aux dégâts qu'il y a eu. Donc, s'il y a des branches qui ont cassé, en taille d'entretien, venir recouper les casses, ça c'est une évidence, mais des fois, essayer de limiter sur une entrée de neige qui pourrait se faire sur l'arbre. Quand l'arbre s'est ouvert, essayer de favoriser des branches qui vont refermer le pied de l'arbre pour ne pas accentuer le problème les années suivantes. Enfin, dans certains cas, on peut être amené à poser des systèmes de bannage pour limiter une ouverture qui a pu se faire sous le poids de la neige ou sous un coup de vent. On sait qu'on a une fissure, par exemple, on va mettre un système de bannage pour limiter, pour maintenir l'arbre en cas de forte chute de neige. Donc là, sur la photo, on voit un bannage qui a été fait sur un hêtre, donc lui qui subit des méfaits de la neige, mais aussi du vent. Donc là, petite info, il y a pratiquement 500 mètres de cordage sur cette arbre. Ensuite, on a un dégât indirect de l'hiver, et qui là est lié directement à l'activité humaine, c'est l'utilisation du sel de déneigement pour la viabilité hivernale. Donc dans notre région, c'est quasiment une obligation de saler les rues pour que les rues soient praticables en véhicule et pour les piétons. Malheureusement, le sel a un impact assez fort. Donc on peut avoir simplement des nécroses de feuillage, mais on peut avoir une mortalité de l'arbre. Donc là, sur la photo de droite, vous êtes juste devant une école, et là, le personnel de l'école sale à outrance le trottoir. Et les arbres ne supportent pas du tout. Là, vraiment, on a une mortalité. Les arbres ont été remplacés, la terre de la fosse a été changée, et automatiquement, l'arbre, au bout de 2, 3, 4 ans, subit le sel. Donc quand on a de la chance, comme cet hiver, on n'a pas eu trop de neige, pas trop de verglas, on a peu de sel de mine, les arbres vont réussir à supporter. Et puis, après, pendant 2-3 hivers de suite, on va avoir de la neige, beaucoup de sel. Le sel se cumule dans la fosse, on bloque le complexe d'échange et les arbres s'intoxiquent. En plus, l'arbre malheureusement n'évacue que très mal le sel, donc il cumule le sel, s'additionne dans ses tissus, et d'année en année le problème va plutôt en s'accentuant qu'en diminuant. Là, on peut voir sur la photo de droite, l'excès de sel arrive même à faire rouiller des grilles en fonte qui sont normalement traitées pour ne pas rouiller. Et là, même là, la grille souffre. Donc à Nancy, la communauté urbaine du Grand Nancy et donc l'école d'Ensaya ont monté un partenariat pour faire justement une étude sur le sel de déneigement sur l'agglomération. Donc l'étude a commencé cette année et se poursuit encore pendant 2 ans. L'idée est de faire deux types de recherches. Une recherche plutôt laboratoire, où il y a des tests qui sont faits sur des plantes qui ont été mises en culture. Donc là, on voit un test sur la photo de droite sur de l'érable. Donc l'arbre le plus à droite qui a eu le plus d'arrosage avec du sel, là, et sur la gauche, l'arbre est témoin. Donc on voit très bien la typologie et l'évolution des arbres. Donc il y a une phase test en laboratoire et une phase de prise en compte de mesures sur le terrain. Et donc sur les sols, on s'aperçoit que la majorité des grands axes de Nancy ont des taux de sel qui sont bien supérieurs au sol, au terrain qu'on peut appeler au sol salin de bord de mer. Donc on a des sols où on a quasiment, on a plus de 25% du complexe d'échange qui est saturé par les sels de déneigement. Et donc dans ces conditions-là, les arbres, la vie de l'arbre est quasiment impossible. On a donc non seulement une intoxication de la plante, mais aussi une destruction de la qualité agronomique du sol. Donc c'est pas juste l'arbre qui est touché. Donc, même si on plante un arbre et qu'on arrête de saler, le sol est tellement touché que les arbres n'arrivent plus à pousser, s'intoxiquent avec le sel qui reste. Donc à chaque remplacement, il faut rechanger de la terre, même si on essaye de mettre en place des systèmes anti-sel. Donc par exemple sur la première photo concernant le sel, on avait un séquoia. Là, pour éviter les projections de sel au pied de cet arbre-là et pour le préserver, on a mis en place tous les hivers, on mettait en place, maintenant on n'en met plus, mais on mettait en place un petit grillage qui faisait 50 cm de haut pour limiter les projections de sel au pied de cet arbre-là. La voirie a un peu changé, donc on n'a plus besoin de mettre ce grillage-là. Mais le sel est sur les rues de Nancy, finalement la première cause de mortalité des arbres. C'est la première cause qui amène à un changement d'arbre par le grand pied. Et sur certains axes, on vient même à ne plus pouvoir planter les arbres, parce qu'il faudrait faire un choix entre déneigement ou plantation d'arbres. Dans les parcs de Nancy, là on a plus de chance, on va dire, parce que on peut fermer les parcs au public. On peut se donner le temps de déneiger. Donc, quand il y a une chute de neige, on ferme les parcs, donc on limite l'accès, donc on limite le risque de chute. Ensuite, dans un deuxième temps, on commence par pousser la neige d'une façon manuelle ou avec des engins. Donc, on essaie de faire un maximum de dégagement comme ça. Et on utilise un fondant, mais plus de chlorure de sodium, mais du chlorure de calcium. Sur les endroits où il reste des taches de verglas, des endroits où il y a des terrains vraiment en pente, où il y a un risque de glissade pour les utilisateurs. Donc on limite l'utilisation de sel, et puis on ne donne pas accès forcément à tout le parc quand il y a de la neige. Donc on va dégager les allées principales, les grands axes traversants des parcs, et puis les gens donc, utilisent ces axes-là, et ça permet de préserver le décor végétal de nos parcs. Mais l'hiver est utile. Donc là, ça c'est des photos qui ont été prises la semaine dernière, où on a des végétaux qui commençaient à débourrer. Alors des végétaux qui sont très précoces par nature, mais qui là ont quand même 15 jours, 3 semaines d'avance. Et là, on pourrait faire les photos aujourd'hui. À mon avis, il y a des bourgeons qui n'auraient pas du tout la même tête. Donc l'hiver est quand même un constituant de notre climat. Les végétaux font avec, et les végétaux en ont besoin pour rythmer aussi leur cycle. Là, par exemple, la photo de droite, c'est un sassafras qui, il y a 10 jours, avait encore des feuilles. Mais dans un jardin qui est très très protégé, dans le jardin-là, on n'a pas de relevé de température, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y avait pas encore eu de gelée jusqu'à cette semaine. Donc là ça, ce matin, à mon avis, il n'y a plus de feuilles sur sa trace. Et la semaine dernière, l'extrémité des branches de cet arbre-là n'était pas bien ahoutée. Donc il y a des chances que l'année prochaine, il soit obligé de repartir sur du vieux bois. Donc l'hiver, on en a besoin. La nature, on a besoin pour se rythmer. On a aussi besoin des froids pour limiter aussi l'action de certains ravageurs. C'est très bien que l'hiver va limiter. Même les jets tardifs, par exemple, les jets tardifs sont reconnus sur les invasions de chenilles processionnaires du chêne. On sait qu'une gelée très tardive sur chêne va détruire les chenilles. Ce n'est pas les chenilles qui vont mourir par le froid, mais c'est le manque de nourriture. La gelée tardive va détruire le feuillage du chêne, la chenille n'a plus rien à se mettre sous la dent. Donc il y a 3 ans sur Nancy, on était bien envahis en chenilles processionnaires. On a eu une petite gelée tardive sur certains secteurs qui ont sur ces secteurs là on a vu une nette diminution de la présence de la chenille processionnaire. Donc on en a besoin de cette idée. Donc là, ça fait du bien. Je suis heureux de le voir. Mais alors, quoi planter dans la ville? Les arbres qu'on choisit, ils doivent pouvoir résister au froid, au gelé précoce, au gelé tardif, tout en occupant leur rôle d'arbre en ville, donc du décor végétal, du rythme dans les rues, de l'ombrage, améliorer le microclimat urbain. Il y a beaucoup de contraintes. Les arbres doivent supporter la neige, le verglas, le sel de déneigement. Là, ça commence à devenir vraiment très compliqué. Et une fois qu'on a choisi un arbre comme ça, la question, c'est un arbre qui résiste à l'hiver. Mais maintenant, est-ce qu'il va pouvoir résister aux conditions de l'été? Sur Nancy, on a des étés souvent très chauds. Les arbres qui résistent en hiver ne résistent pas forcément en été. On se retrouve coincé. Et enfin, l'arbre qui est capable de résister à toutes ces contraintes-là, est-ce qu'il a sa place en ville? Parce que est-ce que la place disponible dans la ville va pouvoir coller avec la dimension de l'arbre? Si l'arbre qui résiste à ça, c'est le platane, dans certaines rues, le platane, ça ne va pas aller. Donc, on est vite coincé. L'arbre idéal, pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Il y a toujours un moment où il a un peu de mal. Alors, dans la recherche de l'arbre idéal, il y a des abus qui sont faits. Il y a des choix certainement non judicieux. En Lorraine, on voit régulièrement de l'olivier qui est planté sur des terrasses, alors dans des pots, souvent en contenant, mais voir un olivier sous la neige, c'est pas favorable pour la plante, mais est-ce qu'il a vraiment un intérêt dans le paysage? Certains palmiers, là, on a un exemple devant la salle, on a quelques palmiers qui sont plantés. Moi, quand je vois ce genre d'arbre dans une ville, je me pose la question de son utilité dans le paysage. Est-ce que c'est se faire plaisir que de planter des arbres exotiques ou des arbres qui ne sont pas appropriés au climat? Dans certains cas, je pense qu'il y a un intérêt de choisir ces arbres-là, parce que ça permet déjà de les tester. Il y a une évolution climatique, peut-être certains arbres qui peuvent être intéressants à essayer. Ça permet de présenter, de faire découvrir certains végétaux aussi. Donc les collectivités ont un rôle à jouer dans ce sens-là pour montrer aux gens qu'est-ce qui est possible de planter dans les jardins, voir aussi les évolutions et faire découvrir des végétaux. Mais on a aussi un rôle d'information. Donc planter un araucaria à Nancy, on sait le risque, nous, ville de Nancy, on sait le risque qu'on a de planter cet arbre-là. On sait aussi qu'on a des arbres, on avait jusqu'à il y a 2 ans, des araucaria centenaires sur Nancy. Donc ils sont capables de résister à certains hivers rudes, mais on sait aussi qu'on prend un risque, il peut geler. À nous d'informer le public, d'informer les gens pour pas que cet arbre-là devienne l'arbre dominant de la ville. On a là sur la photo de droite un chêne vert qui a une centaine d'années, qui est dans un jardin, qui est bien protégé, donc cet arbre-là résiste. Mais là encore, c'est un ancien jardin botanique, donc il faut présenter ces arbres-là, à mon sens, dans des endroits qui montrent des plantes un peu exceptionnelles et bien faire passer le message que ces arbres-là n'ont pas forcément toujours leur place dans le décor des villes. Et donc là, juste pour finir, j'ai utilisé une photo d'un collègue qui est parti au Japon il y a un mois. Et donc là, dans certains jardins, ils ne se posent pas de questions. Ils plantent des végétaux qu'ils savent gélif. Et bien pour l'hiver, ils les emmaillotent totalement. Donc là, c'est une protection pour l'hiver. Donc c'est un genre de nappe de jonc sur plusieurs couches qui englobe la totalité de l'arbre. Donc là, c'est des questions à se poser. Est-ce qu'on veut avoir ça aussi dans nos décors ou est-ce qu'on préfère avoir des arbres locaux qui résistent à nos hivers? Je vous remercie.
Merci beaucoup Yannick. Donc on a un petit peu de temps pour poser des questions si vous en avez, avant de continuer avec les intervenants suivants. Donc est-ce qu'il y a une question dans la salle ?
Oui. J'ai reçu la publicité il n'y a pas longtemps, mais j'ai oublié le nom de produit qui empêche l'absorption de sel par les racines. Est-ce que vous connaissez ce produit?
Alors, je ne connais pas ce produit.
Il paraît que c'est très efficace, mais je ne me rappelle pas de nom. C'est un producteur breton qui fait ça.
Je serais bien heureux d'avoir une solution face au sel de déneigement. Pour l'instant, nous, la seule solution qu'on a eue, surtout sur des jeunes plantations, c'est plutôt la mise en place de systèmes de stimulants racinaires et d'apport d'éléments minéraux qui vont pouvoir recharger le complexe du sol avec un lessivage, donc des arrosages très très forts, et puis ensuite, par la suite, la mise en place d'un engrais ou avec stimulants racinaires, sans vouloir le nommer, style agrosil. On a des résultats qui sont pas mauvais sur les jeunes plantations. Après, sur les vieux arbres, on n'a jamais réussi à récupérer un arbre.
Oui. Pour le sel de déneigement, croyez-vous pas qu'il faudrait abandonner ce genre de méthode et de produits et dire aux gens, vous déneigez déjà vos trottoirs vous-même, et puis dire aux gens d'utiliser des pneumatiques adaptées à la neige, comme les Allemands ont fait, et dire, quand on a du verglas, est-ce que ce serait pas mieux pour la nature de sabler que de saler? Parce que le sablage, c'est sûr, ça a un coût. À la fin de l'hiver, il faut le nettoyer.
Mais le problème, c'est que le sel, on sait très bien, c'est la mort de nos terres. C'est la mort des irrigations, parce que tout sel qu'on met dans la nature, l'eau va aux rivières, et les rivières, les paysans, les agriculteurs irriguent leur sol avec l'eau. Et on sait qu'on va tuer tout. Dans certains pays où ils irriguent d'une manière excessive, ils arrivent à des salinités des sols qui sont nuisibles pour les cultures. Donc là, on court une catastrophe écologique dans peu de temps. Parce que cette pratique de salage, il n'y a qu'une vingtaine d'années que ça existe. Je m'aperçois qu'en Savoie, sur les routes de montagne, on sale maintenant jusqu'en haut des stations. Avant, on ne salait jamais. On mettait du mâche vert, point. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi à remettre en cause toutes nos pratiques depuis 20 ans?
Là, vous prêchez un convaincu. Au niveau des voiries, le sel, donc là, en l'occurrence sur Nancy, c'est pas la direction des parcs et jardins qui gère ça, c'est au niveau communautaire, c'est la direction des voiries. Le problème, justement, vient souvent entre les personnes qui font l'application et les personnes qui subissent les dégâts de sel. Il y a souvent un service d'écart, voire une collectivité d'écart. Le sel, c'est la solution de facilité. Parce qu'on sait qu'avec le sel, juste à moins 7, moins 8 degrés, on arrive à faire fondre. Donc on rend une route qui est très sécurisante. Donc le sel, par facilité, est utilisé. En plus, là, sur Nancy, nous, on a une production de sel à proximité, donc on n'a pas de souci pour l'approvisionnement. C'est un matériau, finalement, qui revient peu cher, qui est facile à mettre en place, et du coup, qui est systématisé partout. Vous parliez du déneigement des trottoirs. Le déneigement des trottoirs est à la charge, normalement, du propriétaire ou du locataire, la personne qui habite là. Un peu de sensibilisation permet de limiter les quantités d'apport de sel. Mais il y a toujours un peu d'abus, il y a toujours des gens qui abusent. Il me semble que c'est en Suisse où il y a des collectivités qui ont interdit l'usage du sel par les privés sur les trottoirs, qui obligent du déneigement manuel. Ça serait l'idéal. L'étude qui est en train de monter le Grand Nancy vise aussi à former et informer le personnel qui utilise le sel de déneigement. Donc la troisième étape de l'étude, normalement, ça serait de mettre en place un protocole d'utilisation du sel pour savoir, justement, l'étude devrait pouvoir permettre de voir quel type d'application de sel est la plus néfaste s'il y a une utilisation de sel qui permet de concilier la nature et l'utilisation de sel et de diriger des actions vers ce système-là. Donc, par exemple, on sait que l'utilisation de saumure a moins de conséquences néfastes que l'utilisation de sel. Il faut éviter le sel en préventif plutôt que le mettre en curatif. Mais on le sait, mais il n'y a pas forcément d'études précises faites partout. Et il y a encore besoin de former les gens qui utilisent le sel.
Oui, bonjour, Jean-François Breton, ex-jardin du Luxembourg, comme mes collègues de droite et de gauche. J'ai eu la chance le 16 décembre d'assister à une réunion d'agroforesterie. C'est le thème de cet après-midi, mais j'anticipe un petit peu. Et je vais dire qu'il y a peut-être une bonne nouvelle dans la réponse de mon collègue. J'ai appris qu'en fait, on pouvait éventuellement de louer des terres qui chimiquement devraient être rendues au même état qu'à l'origine. Donc ne pas penser que peut-être que on va vers une réglementation du sol, ne pas l'asphyxier chimiquement. Vous voyez ma petite remarque que je fais ? Donc il y a peut-être un espoir. J'y crois beaucoup.
Là pour ce sujet du sel, en fait, en fin d'après-midi, M. Oremus va parler justement de la démarche de la ville d'Annemasse qui va dans le sens justement d'utiliser de moins en moins de sel. Et donc ça répondra bien à la question ou à la remarque que vous avez faite tout à l'heure.
Frédéric Bizière, cabinet APE. J'avais une petite remarque sur la protection des troncs à la plantation. Tu as parlé, Yannick, de la toile de jute.
Oui.
Et une remarque, puisque plusieurs études montrent que sous ce matériau, l'accumulation de température est la plus élevée. On enregistre sous la toile de jute des températures qui peuvent aller jusqu'à, Thierry en parlera peut-être, jusqu'à 50-60 degrés. Mais il est quand même fortement conseillé, même si le coût est plus élevé, d'utiliser, et tu en as parlé, des matériaux comme les nattes de jonc ou de bambou, puisque la ventilation est quand même plus efficace et les taux de température sont beaucoup moins élevés que sous des matériaux comme la toile de jute. Et naturellement, l'incidence sur les tissus dans la vie de l'arbre et la vulnérabilité des tissus une fois que ces matériaux sont enlevés, puisqu'on ne laisse pas ces protections-là sur de nombreuses années, il faut faire attention sur le matériau toile de jute.
Pour rebondir sur la toile de jute, lorsqu'on l'utilise, sur les jeunes végétaux, on ne l'utilise quasiment plus. Et donc quand on l'utilise, c'est souvent pour protéger des coups de soleil sur des arbres, par exemple comme sur le hêtre pleureur que je vous ai montré qui a cassé, sur toutes les marcottes qui sont retrouvées en lumière. On a mis de la toile de jute, ne serait-ce que par la forme de l'arbre, mettre une lame de bambou, c'est vraiment très délicat. Mais là, on met de la toile de jute, une seule épaisseur. Donc pas de surcharge dessus, donc il y a une aération, on voit l'écorce à travers la toile de jute, elle est très aérée, une seule épaisseur, et on la laisse se déliter naturellement, pour avoir une remise en lumière, on va dire, progressive de l'arbre. Esthétiquement, c'est joli la première année quand la toile est neuve, la deuxième quand elle commence à partir en lambeaux, on se dit tiens, il manque un peu d'entretien, mais on a remarqué qu'en faisant comme ça, on limite énormément les brûlures. Mais là je te suis sur... Il ne faut pas mettre, comme se faisait par une époque, 3-4 couches de nappe de jute, et par-dessus, on met un baume antitranspirant. Là, c'est là où on a les pires résultats. Mais une simple couche de nappe de jute, de nappe, permet un bon contrôle.
Bonjour, Ben Saoud, cabinet d'études et rassemblement. Vous avez cité des actions préventives pouvant améliorer la résistance au gel, bien entendu le choix de l'essence, les conditions de plantation, le suivi de l'arrosage. Je voulais savoir s'il y a eu des retours d'expérience en ce qui concerne le paillage, le mulch, surtout son effet sur la résistance aux basses températures.
Alors, on n'a pas fait vraiment d'études sur les conséquences du paillage sur le gel. Par contre, il est clair que quand le sol n'est pas nu après une plantation, on a plus facile à gérer les arrosages, à gérer la reprise des végétaux, alors que ça soit un paillage, que ça soit un mulch, un peu de compost en surface, voire même des plantations ou des semis, des semis type préfleuri, la photo où on voyait les gens qui plantaient où il y avait un peu de neige, pour des raisons esthétiques dans le parc là, on a fait un semis préfleuri en surface, Et on s'aperçoit qu'on a eu, enfin, on a eu assez facile à gérer les apports hydriques sur cette parcelle-là. Et ça s'est très bien régulé. Donc je reste convaincu que plus on va couvrir le sol après une plantation, meilleures seront les reprises. Et plus on gagne aussi en termes de structure de sol. Donc meilleure sera la structure, meilleure aussi sera la réaction de la terre suite au dégel. Un sol compacté va mettre plus de temps aussi à dégeler à la reprise des beaux jours. Donc il faut faire vivre les sols. Ça ne peut être que favorable pour la saison estivale en termes de protection de l'évaporation. Et ça, pour moi, ça ne peut être que favorable aussi pour la période de l'année.
Une dernière question.
Bonjour, Xavier Eloi, étudiant dans un lycée agricole. J'aurais voulu savoir, on utilise beaucoup de sel de neigement, est-ce qu'il y aurait des aspects biologiques et naturels qu'on pourrait mettre en place pour limiter les effets de ce sel?
Alors, pour limiter, quand il y a du sel, on a essayé plusieurs techniques pour limiter l'arrivée du sel dans les fosses des arbres. Donc on peut limiter l'accès de l'eau, parce que ce qui intoxique généralement le sol, c'est pas le sel qui est épandu directement, mais ça va être les projections de neige fondue par le sel, les projections donc des voitures qui passent, ou les projections des déneigeurs qui poussent les lames qui poussent sur l'extérieur. Donc, par exemple, d'entourer les fosses d'arbres en ville avec une bordure, planter plutôt avec une bordure haute, limite les apports d'eau salée au pied des arbres. Donc ça, c'est assez efficace. Mais on limite aussi l'apport d'eau, tout simplement, dans la fosse. Donc on peut avoir des problèmes hydriques en été. La solution de planter au pied des arbres semble aussi être... ça fait un effet tampon. Donc quand on a au pied de l'arbre, au lieu d'avoir une simple grille, avoir un massif qui est planté avec de l'arbuste ou du couvre-sol, on a l'effet, c'est-à-dire que le couvre-sol ou l'arbuste va pomper. Tout ce que le couvre-sol va prendre comme sel, c'est tout ce que l'arbre n'a pas derrière. Donc on a un effet d'épuration par ces plantations-là, mais par contre c'est les plantations-là qui souffrent. Donc vous allez mettre un lierre au pied de l'arbre, le lierre il résiste assez bien au sel, mais à des fortes doses, il va finir par lâcher quand même. Donc il va falloir toujours refaire des plantations de complément, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que pour l'instant, la meilleure solution, ça serait de ne pas mettre de sel.
Merci beaucoup Yannick. Là nous avons eu le point de vue du gestionnaire qui a brossé le tableau général de la gestion des arbres de ville quand les conditions sont froides. Donc maintenant, on va aller dans le détail avec Thierry Améguillot, qui est chercheur à l'INRA, qui va nous parler des problèmes physiologiques sur l'arbre quand il est contraint à ses basses températures.
Bonjour à tous. Donc je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de l'impact du froid sur les arbres. On va recouvrir des notions de physiologie. Donc je travaille à l'INRA dans un laboratoire qui est une unité mixte entre l'INRA et l'Université Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand, qui s'appelle le CLAP, pour physique et physiologie intégrative de l'arbre fruitier et forestier. Donc dans cette laboratoire, il y a une équipe qui s'occupe de la biologie hivernale, et donc j'essaie de vous présenter un petit peu quelques travaux de cette équipe sur le froid, l'impact du froid sur les végétaux. Alors tout d'abord, pour replacer un petit peu tous les